France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, la postérité d'Aristide Bruand, seconde partie. Disparu il y a 100 ans, Aristide Bruand reste une figure majeure de l'histoire de Paris et de l'histoire de la chanson, en particulier la chanson réaliste, genre dont il est quasiment l'inventeur. Cet anniversaire a suscité au printemps dernier une exposition au musée de Montmartre, qui dure encore jusqu'au 20 octobre, ainsi qu'un spectacle au hall de la chanson, sur lequel nous allons revenir au cours de cette émission. La mémoire populaire a conservé au moins 4 chansons d'Aristide Bruand. La balade du chat noir, Nini Potchien, Rue Saint-Vincent et Les Canuts. Les premiers à reprendre Rue Saint-Vincent depuis Bruand en 1912 sont les frères Jacques sur un disque 78 tours BAM en 1949. Ils ont ouvert la voie à une liste impressionnante d'interprètes, hommes et femmes, plus d'une trentaine au fil des décennies, parmi les plus talentueux.
À la vaisseau, sa toque de marte, sur la butte de Montmartre, un petit air innocent, à s'appeler rose, elle était belle, à sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent.
On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900,
a demeuré chez sa vieille aïeule, ou qu'à s'élever comme ça toute seule, rue Saint-Vincent.
La chanson « Les Canuts », écrite en 1894, rend hommage au héros de la révolte des ouvriers de la soie à Lyon en 1831. Elle a été inspirée à Bruand par une œuvre d'origine allemande, la chanson du linceul, qui évoquait le sort des tisserands de Silésie et qui a figuré en 1893 dans la pièce « Les tisserands » montée par André Antoine au Théâtre Libre. La chanson des Canuts n'a pas été enregistrée par Aristide Bruand. Elle a été gravée pour la première fois, de façon assez solennelle, par Marcel Clément pour la marque socialiste « La voix des nôtres » en 1930. Puis il faut attendre Yves Montand, qu'il a incluse dans son album de 1955 consacré aux chansons populaires de France et plus précisément au répertoire engagé des temps anciens. Il a modifié quelques paroles pour leur donner un tour plus révolutionnaire. La tempête devient ainsi la révolte et le dernier vers, Nous sommes tout nus, est remplacé par Nous n'irons plus nus. Sa version, que nous allons entendre, deviendra un chant de lutte repris par de nombreux interprètes. Catherine Sauvage, Monique Morelli, Francesca Solville, Marc Augeret, Michel Bernard ou Lenny Escudero.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir un manteau ou ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir un manteau ou ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus.
commissariat de l'exposition sur Aristide Bruand, qui se tient actuellement au musée de Montmartre, est assuré par Isabelle Comte, directrice de la société historique Le Vieux Montmartre. Comment expliquez-vous, Isabelle Comte, la postérité de Bruand, le fait que ses chansons ont passé les générations, ont séduit des interprètes au fil des décennies jusqu'à aujourd'hui?
Déjà, il a construit son mythe de son vivant. Donc ça, ça a été quelque chose de formidable. Et dans les facettes de cette construction, d'une identité très précise et très, très forte, avec une aura assez forte, il a utilisé des grands artistes. Donc tout ça participait de ce mythe. Et en plus de ça, il a aussi compris l'intérêt de l'enregistrement de ses chansons. Et très tôt, il a enregistré ses chansons, ce qui est quelque chose d'assez puissant, donne une proximité avec le passé qui est assez intéressante. Et par ailleurs, sa volonté de transmettre un univers populaire, de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas forcément dans le paysage public, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se retrouve à chaque génération. On a eu d'autres musiciens, chanteurs ou compositeurs qui avaient envie de faire connaître aussi. Je pense bien sûr à Brassens qui aimait tant les chansons paillardes, Renaud qui, dans les années 80, a aussi cherché à évoquer les langages populaires de son époque. Eh bien, ces musiciens et d'autres s'inscrivent dans cet héritage, en tout cas dans leur pratique. Donc on comprend qu'Aristide Bruand soit un de leurs modèles et donc qu'ils aient envie de temps en temps d'emprunter à son répertoire.
Je me demande à quoi qu'on songe en prolongeant la rue Monge, à quoi que ça nous sert. Des escouades, des statues, quand on démolit nos rues, à la place Maubert, à la place Maubert. Avant qu'on y démolisse, on ne craignait pas la police, l'été comme l'hiver. On était toujours à l'ombre, dans un coin plus ou moins sombre, à la place Maubert, à la place Maubert. Quand on n'avait pas de marmite, on bouffait chez le père Lafrite pour un peu d'aubert. Le soir, on levait une pétasse, un choléra sans limace, à la place Maubert, à la place Maubert. Pour trois ronds chez le père Lunette, ou que chantait la môme Toinette, on se payait le concert. Pour Siron, au Château Rouge, on s'orguait avec sa gouge, à la place Maubert, à la place Maubert. Aussi bon Dieu, je vous le demande, quand il n'y aura plus de rue Galande, plus d'hôtel Colbert. Où ce que vous voulez qu'ils aillent, les purotins qui rouscaillent, à la place Maubert, à la place Maubert. On leur fout au moins des niches, comme on en fout aux caniches, qui soient à couvert, sous quelque chose qui les abrite, quand ils trouveront plus de gîte, à la place Maubert, à la place Maubert. Et quand ils refileront la cloche, ils auront tous dans leur poche le surin ouvert. Et jure-là, mes camarluches, la nuit gare au lac Remuche, de la place Maubert, de la place Maubert, de la place Maubert, de la place Maubert.
Chanté ici par Georges Brassens dans l'émission Pirouette sur Europe 1 en 1979, cette chanson témoigne de l'haussmannisation intervenue au moment de l'intégration des vieux faubourgs dans les limites de la capitale en 1860 et qui a progressivement redessiné tout le plan de la ville. L'œuvre de Bruand a une incontestable valeur de témoignage sur le Paris de la fin du XIXe siècle, avec une galerie de portraits très typés, de personnages presque folkloriques, mais aussi sur la physionomie des quartiers. Les voici évoqués en 1951 à la radio par Francis Carco, la comédienne Jacqueline Moran et le chanteur Polo, principal animateur du Lapin Agile.
En ce temps-là, écrit Maurice Donnet,
le tramway qui desservait les boulevards extérieurs de l'Étoile à la Nation était traîné par de bons chevaux. Et les soirs d'été, c'était une véritable partie de plaisir de grimper sur l'impérial et de se faire trimballer durant une heure et demie pour 3 sols. Je me rappelle un soir où, avec un camarade du Chat Noir, nous nous étions offert cette promenade. Et tout le long du trajet, nous nous étions amusés à chanter les chansons d'Aristide Bruant que nous savions par cœur. À la hauteur des Batignolles, c'était l'histoire de la fille de Flora. À Montmartre, oh pardon, Montmerde, c'était l'histoire du fils Poirier.
Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la Ruberte, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, et Montmerde.
Vous savez bien, Poirier de la Ruberte, grâce à Bruant, le folklore des quartiers excentriques était créé.
Brune fille d'Angevin, pour tout faire elle était bonne, chez un vieux marchand de vin, à Charonne. Quand le maître en eut soupé, elle erra sans domicile, sur le pavé retapé, à Belleville. Un soir elle rencontra un boucher sans gigolette qui voulut l'emmener à la Villette. Mais les bouchers sont brutaux, elle reçut des torgnoles, puis une nuit s'enfuit aux Batignolles. Fit rencontre d'un cocher qui cherchait une femelle et qui l'emmena bâcher à Grenelle. Puis son ventre ayant grossi, elle accoucha dans un bouge par là, pas très loin d'ici, à Montrouge. Pour élever l'innocent, elle dut se mettre en carte et travailler le passant à Montmartre. Et voilà, mince de Chopin, faut vraiment être une guenuche pour venir chercher son pain à Pantruche.
C'était « À Pantruche » par Misty Gris, qui en 1960 a consacré tout un album aux chansons de Bruant. Depuis les années 70, le répertoire très imagé du chansonnier suscite régulièrement des idées de spectacles dédiés à ses œuvres. Cette année, le centenaire de sa mort a conduit le Hall de la chanson, situé dans le parc de la Villette, à monter « Les Apaches de Bruant », un spectacle original conçu à partir de ses chansons en les situant au cœur du métro parisien pour les amener vers un public actuel. Le comédien Olivier Husnet, co-metteur en scène, explique ce que Bruant nous dit aujourd'hui de son époque.
Je crois qu'il nous dit la misère de cette société nouvelle qui est la société industrielle, en fait. Donc, au niveau littéraire, il reprend le projet de Zola qui diffuse son roman naturaliste à la même époque. En tout cas, vraiment dans les années 1880, là où démarre vraiment le travail de Bruant. Et lui, donc, il a le projet de la chanson réaliste. Il n'est pas le seul inventeur, mais c'est quand même l'inventeur principal de la chanson réaliste, avec le même projet, c'est-à-dire dépeindre une classe sociale qui n'a jamais été dépeinte jusqu'ici, puisqu'on ne s'intéressait qu'aux familles qui valaient la peine, c'est-à-dire les familles bourgeoises au minimum, et les familles aristocratiques qui faisaient encore rêver et les peintres et les romanciers. Et dans les chansons aussi, on ne s'occupait pas des classes sociales. Et donc, il crée la chanson réaliste avec quelques autres, avec ce souci effectivement de faire entrer dans les chansons et dans les textes de chansons ce parler populaire qui est parfois quasi incompréhensible, y compris à l'époque, pour certaines classes sociales. C'était vraiment un langage très codé ou avec... lexicalement, c'est compliqué. Il le fait avec beaucoup de soin et beaucoup de savoir-faire. C'était un gros bosseur. Quand il a commenté, par exemple, la chanson « Abiribi », qui est d'ailleurs chantée dans le spectacle aussi, il a dit « J'ai mis 7 mois à l'écrire ». on est un peu sur les mêmes délais que Georges Brassens, par exemple, hein, qui mettait plusieurs mois à écrire une chanson, parfois même plusieurs années, il y revenait comme ça. C'est quelqu'un qui est très, très acharné au travail, notamment au travail de l'écriture et de la poésie, quoi, enfin des paroles. Et il n'est pas le seul à le faire à son époque. Hein. Il y a par exemple Jean Rictus qui va faire, alors sans forcément être chanté, mais qui écrira des monologues comme ça, en argot rimé, avec le même souci de travailler cette langue-là. Et ce qu'il dit de son époque, eh bien, c'est effectivement ce que dira Brecht quand il reprendra un petit peu tous ces modèles-là. Brecht, il connaît très bien Bruant. Quand il écrit l'opéra de Katsu, il s'inspire aussi de Bruant. Eh bien, c'est les laisser pour compte. C'est-à-dire vraiment ceux qu'on a abandonnés, ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui ne sont pas représentés, pas relayés, dont la voix n'est pas relayée, et qui ont sans doute des choses à dire sur la société. C'est le refoulé de la société, en fait.
Extraite du spectacle Les Apaches de Bruant, Yannick Morzel chante Abiribi, une chanson de 1891 évoquant les bagnes et bataillons disciplinaires d'Afrique du Nord.
Il y en a qui font la mauvaise tête au régiment. Ils tirent au cul, ils font la bête inutilement. Quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est en Afrique où ce que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort, où ce que le plus malin désespère de faire chibi. Car on peut jamais se faire la paire à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on marche, faut pas flancher. Quand le chaouche crie en avant-marche, il faut marcher. Et quand on veut faire ses épates, ses pots de zebi, on vous fout les fers aux quatre pattes. À Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on crève de soif ou de faim. C'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin. La nuit, on pense à la famille sous le gourbi. On pleure encore quand on roupille à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on râle en rue. La nuit, on entend hurler le mal. Tu aurais pas cru qu'un jour il serait forcé de connaître Mamselle Bibi. Car tôt ou tard, il faut en être à Biribi, à Biribi. On est sauvage, lâche et féroce quand on en revient. Si par hasard on fait un gosse, on se souvient, on aimerait mieux quand on se rappelle ce qu'on a subi. Voir son enfant à la nouvelle, Kabiribi, Kabiribi.
Olivier Husnet, ce qui revient, c'est la question de la peine de mort, qui à l'époque donc était très présente dans la société, comme une sorte d'épouvantail, quoi, pour faire peur aux citoyens, comme étant une menace de ce qui les attend s'ils s'écartent trop du droit chemin. Et donc, c'est très souvent présent dans ses chansons, et aussi de l'attitude que les héros adoptent par rapport à cette issue. Fatal.
Oui, c'est très juste, parce que, et c'est ce qui effectivement diffère totalement d'aujourd'hui, et pas uniquement parce que la peine de mort n'existe plus, mais aussi parce que aujourd'hui on a intégré, et sans doute l'élection du Front Populaire dans les années 30 est à la fois un marqueur et aussi un embrayeur de ça, c'est-à-dire je crois qu'on a intégré aujourd'hui en France le fait qu'il faut prévenir les problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de plans qui sont financés pour s'occuper des décrocheurs scolaires dans les zones sensibles, etc. On a intégré le fait que pour éviter les crimes, pour éviter les délits, pour éviter les dérives d'un certain nombre de personnes de la société, eh bien on essaie de s'en occuper en amont. Et c'est pas du tout le souci à l'époque. À l'époque, c'est le tout répressif. Et ça se voit tout à fait dans ces chansons-là. Le seul rempart contre le crime et contre les délits de ces petits voyous, c'est la peur de la guillotine. et à les éloigner si on arrive à les attraper. D'où la récurrence aussi des références au bagne, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou le fameux Biribi, qui est en fait plusieurs bagnes en Afrique. C'est cette peur-là de la punition qui est censée endiguer la violence et les débordements de ces apaches qui font peur à tout le monde. Et pour le coup, la presse en parle énormément. La figure de l'apache ou des apaches, elle est vraiment... ou des pègres, on la voit dans les journaux de l'époque, beaucoup représentée aussi.
Mais là aussi, je pense que c'est comme une sorte d'épouvantail.
Oui, c'est ça.
Pour le grand public.
On a peur de ces gens-là. Mmh. Et le fait de leur donner voix, de parler à la première personne, de raconter aussi leurs histoires. Pour le coup, ce qui est frappant aussi quand on écoute les chansons de Bruant, c'est à quel point les enfances sont terribles. Les gens disent, j'ai pas de papa, j'ai pas de maman, je suis né sur le tas, c'est-à-dire sur le tas d'ordures, on m'a trouvé dans la rue, je me suis élevé tout seul, ou elle s'est élevée toute seule. C'est récurrent. On comprend qu'il est aussi un peu un avocat de cette classe sociale. Il en fait l'histoire par des petites biographies comme ça, et on voit que ce sont des gens qui n'ont rien eu. Tout simplement, qui n'ont pas d'autre choix que de trouver leur place dans ce qui leur reste, c'est-à-dire l'illégalité. C'est nouveau, ça, comme rhétorique.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
En t'écrivant ces mots, je frémis par tout mon être. Quand tu les liras, j'aurai mis le nez à la fenêtre. Je suis réveillée depuis minuit, ma pauvre Toinette. J'entends comme une espèce de bruit à la roquette. Le président n'aura pas voulu signer ma grâce. Sans doute que ça y aura des plus que je me la casse. Si l'on grassillait à chaque coup, ça serait trop chouette. Temps en temps, faut qu'on coupe un coup à la roquette. Là où le soleil blanchit les cieux, la nuit s'achève. Ils vont arriver, ces messieurs, v'là le jour qui se lève. Maintenant j'entends distinctement le peuple en goguette qui chante sur l'air de l'enterrement à la roquette. Tout ça, vois-tu, ça ne me fait rien. Ce qui me paralyse, c'est qu'il faut qu'on coupe avant le mien le col de ma chemise. En pensant au froid des ciseaux à la toilette, j'ai peur d'avoir froid dans les os à la roquette. Aussi je vais me raidir pour marcher sans que ça m'émeuve. C'est pas moi qui voudrais flancher devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette avant d'éternuer dans le sac à la roquette.
Dans cette chanson de 1889, Germaine Montero évoquait la prison de la Roquette dans le 11e arrondissement, aujourd'hui remplacée par un jardin public, où avaient régulièrement lieu les exécutions capitales devant des foules fascinées qui observaient la dignité des condamnés. Seules les pierres sur lesquelles l'on posait la guillotine, qu'on surnommait la veuve, ont été conservées, affleurant sur la chaussée. Issue de la bourgeoisie de province, plus précisément du Loiret, Aristide Bruant a été amené dans sa jeunesse à explorer le monde des déclassés de la capitale, mais moins le monde ouvrier qui commençait à lutter contre la puissance du patronat et à se syndiquer. À l'exception des canuts, entendus précédemment, il n'y a donc pas de message proprement politique ou d'utopie sociale dans ses chansons, mais une forme d'apitoiement pour les marginaux de la société. C'est plutôt dans certains de ses monologues que l'on trouve des préoccupations politiques, même si c'est parfois sur le mode humoristique. En voici un, dit par Raymond Souplex en 1961, dans l'émission de Pierre Barbier et France Vernilla, l'histoire de France par les chansons.
Je suis républicain socialiste, compagnon, radical ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi, je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion, et je passe mon temps chez les manzingues où se prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent, les orateurs. Mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule Doma les totors et qu'on parle de foot tout par terre, j'applaudis d'achat et d'autor. C'est d'une simplicité biblique. D'abord, faut plus de gouvernement. Puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement. Plus de salaud qui vit à sa guise pendant que nous avons un mal de chien. Plus de loi, plus d'armée, plus d'église. Faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Il y aura plus de chef, plus de contre-maître, plus de directeur et plus de patron. Mince qu'on pourra tirer sa flemme, on fera tous les jours le lundi. Oui mais s'il n'y a plus de la trompème, qui fera la paye le samedi?
Olivier Husnet, je crois que Bruant, pour écrire ses chansons, il est allé au contact, en quelque sorte, des personnages qu'il décrit. Et comment ça s'est passé tout ça? Quel était le projet? Et concrètement, comment...
Ça s'est fait très en douceur. Alors, c'était un homme qui était quand même très intelligent. Enfin, c'est un brillant écolier. Il avait des premiers prix de grec et de latin au petit lycée, comme on disait à l'époque. C'est quelqu'un qui était très doué pour les langues, du coup, y compris les langues anciennes. Donc, il était de la bourgeoisie. Quand il s'est retrouvé... avec ses parents ruinés, lui-même gagner sa vie pour ses parents, et puis un peu à faire toutes sortes de boulots, où il a côtoyé justement une classe sociale qu'il ne connaissait pas, qu'il ne côtoyait pas, qui était donc les travailleurs, les ouvriers, y compris très pauvres, et bien déjà, leur parler l'a intéressé. Et donc c'est un travail qui a pris vraiment plusieurs années. Il est allé jusqu'à, effectivement, fréquenter les bibliothèques et les dictionnaires d'argot qu'on pouvait y trouver, pour affiner, en fait, cette connaissance de l'argot et des parlers populaires, et petit à petit. Alors, il a aussi écrit des chansons qu'il n'était pas du tout au début. Hein. Il n'était pas, c'était pas un spécialiste de l'argot dans les chansons, en tout cas. Et petit à petit, il s'est rendu compte que c'était vraiment son point fort, d'une certaine façon. À chaque fois qu'il utilisait le langage parlé, familier, puis l'argot, eh bien, c'est là où il remportait le plus grand succès. Donc, c'est une chose qui s'est faite petit à petit, mais il côtoyait effectivement vraiment ces petits pègres, et j'imagine qu'il rentrait chez lui et qu'il notait les expressions fleuries qu'il avait entendues pour ne pas les oublier, et puis les recaser dès qu'il pourrait dans une chanson. Et puis il a aussi vraiment carrément fait des portraits. Nini Pochien, elle existait, enfin, c'était un personnage réel, et il y a comme ça un certain nombre de ses portraits qui sont des portraits vraiment sur pied de gens qui ont existé.
La rose blanche là de la rue Saint-Vincent, elle existait aussi?
Ah, ça je ne sais pas. Dans la rue Saint-Vincent, c'est très très touchant, parce qu'on parle d'une jeune fille qui ne voulait pas devenir prostituée, qui s'est fait tuer par son petit copain, qui était en fait un souteneur. C'est raconté à la troisième personne. C'est une voisine ou quelqu'un qui raconte ça. Oui, je pense que ce genre de situation d'énonciation, en fait, ont pu être rencontrées par lui. Il a sans doute rencontré des gens, des voisins de ces rues, des faubourgs, qui ont pu dire, bah oui, mais voilà ce qui s'est passé, la pauvre petite, je la voyais tous les jours. Voilà, je pense que tout est réel. Enfin, pour le coup, il a sans doute fait des agglomérats, comme tous les gens de lettres, enfin, qui font des romans. Tout est vrai, mais on reconstruit des personnages, on agglutine en fait autour d'un même personnage plusieurs traits de personnes différentes. Mais il a aussi, je pense que la Philoche par exemple, c'est un personnage réel. Enfin voilà, il y a plusieurs personnages qui sont de vraies personnes.
Il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. On l'appelait la Philoche à la bastoche. Il ne faisait pas sa société du génie de la liberté. Il était pas républicain, il était l'ami du rouquin. Et le petit homme à la méloche, à la bastoche. À cette époque-là, c'était le bon temps. La méloche avait 18 ans. Et la Filoche était rupin, il allait des fois en sapin. Il avait du jonc dans sa poche, à la bastoche. Mais ça peut pas durer toujours, après la saison des amours. C'est la mistoufle, et bien souvent faut se les caler avec du vent. Filer la comète et la cloche à la bastoche. Un soir qu'il avait pas mangé, qui rôdait comme un enragé. Il a pour barboté le quibus d'un conducteur des omnibus. Crevé la panse et la sacoche à la bastoche. Et sur la bascule à Charlot, il a payé sans dire un mot. À la roquette, un beau matin, il a fait voir à ceux de Pantin comment savait mourir un broche de la bastoche. Il était né près du canal, par là, du côté de l'arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais on l'appelait la filoche à la bastoche.
Sur son premier album, publié en 1969, Daniel Guichard a intégré deux titres de Bruant, Dans la rue et À la bastoche. En 1970, c'est au tour du chanteur libertaire François Béranger de reprendre À la goutte d'or. Étudié très sérieusement, l'argot est devenu chez Bruant une forme littéraire. Cet aspect est détaillé en 1951 à la radio, dans l'émission Tribune de Paris, par l'un de ses biographes, l'avocat Alexandre Zévaès, qu'il avait connu en 1890 au cabaret du Mirliton. Il est en compagnie du chansonnier Jacques Grélot.
Il y a tout de même moins d'argot que vous ne semblez le croire. Évidemment, il y a un certain nombre d'expressions argotiques.
Ça nous frappe peut-être parce que cet argot est un peu périmé, justement, ça, on le remarque plus. Si c'était dans la langue actuelle,
oui, évidemment, l'argot est une langue qui évolue, je dirais presque, d'année en année. Et par conséquent, il y a certaines expressions qui se sont modifiés aujourd'hui, qui n'ont plus le même sens qu'autrefois, ça c'est pas douteux. Exactement. Qu'il s'agisse de l'argot des prisons, ou de l'argot des professions, ou de l'argot des gens du monde.
Oui, d'accord. Oui.
Mais en ce qui concerne Bruant, moi je considère surtout en lui celui qui a dépeint la faune dont parlait tout à l'heure Marsac, c'est Daphnis de Barrière et c'est Chloé du Trottoir.
Avec beaucoup de poésie, justement.
Il y a mis beaucoup de poésie, beaucoup de coloris, beaucoup de sentiments, beaucoup de vigueur. Et aussi, il faut le dire, beaucoup de brutalité.
Et ceci d'ailleurs.
C'est de la chanson des gueux de Richepin, avec plus d'exactitude et moins de rhétorique. Oui.
Le comédien-chanteur Jacques Florency, qui s'est fait une spécialité des monologues de Bruant, a été enregistré en avril 1956 pour le poste Paris Inter, au cabaret Le Cheval d'Or, rue Descartes, par Jacques Pochemort.
Le grelotteux. Vrai, il y a des mois qu'on n'a pas de veine. Quand je dis des mois, je sais pas ce que je dis. Je m'ai toujours connu dans la peine, sans un pélo, sans un radis. Il serait pas trop tôt que je boulotte. Je vais tomber malade à la fin, il fait chaud et pourtant je grelotte. C'est-il la fièvre ou bien la faim? Nom de Dieu, je suis pas à mon aise, c'est épatant, je sais pas ce que j'ai. Avec ça, j'ai la gueule mauvaise. C'est pourtant pas ce que j'ai mangé. Si j'aurais mangé de la giblotte, ça sentirait meilleur, c'est fin. C'est bon, c'est chaud. Parce que je grelotte, c'est-il la fièvre ou ben la faim? Allons bon, v'là mes dents qui claquent. Je sais pas ce que j'ai, c'est épatant. J'entends les os de mes jambes qui plaquent contre les parois de mon culbutant. Je suis foutu si j'ai la tremblote. Je suis plus dauphier, je suis pas dauphin. Je peux pas me soigner. Parce que je grelotte, c'est-il la fièvre ou ben la faim? Et puis je sens la sueur qui me coule, à faire rigole dans le creux de mon dos. Je vais crever, j'ai la chair de poule. C'est fini, tirez les rideaux. Bonsoir la soc. Mon vieux Alphonse, il vaut peut-être mieux que ça soit la fin. Ici bas, quoi que j'étais, un gonce, là-haut je serais peut-être un séraphin.
Merci. Nourri par ses recherches et son expérience, Aristide Bruand a fini par publier en 1901 chez Flammarion un dictionnaire français-argot de 450 pages signé avec Léon de Bercy qui en a réalisé la majeure partie. Intitulé « L'argot au XXe siècle », il s'agit d'un dictionnaire inversé et raisonné qui restitue l'argot dans son évolution depuis le XVe siècle. L'historien de la chanson Jean-Claude Klein a fort bien analysé l'écriture de Bruand au micro de Claude Arnault sur France Inter en 1990.
Comment peut-on juger l'œuvre de Bruand ?
La simplicité, qui était l'un de ses traits, était complétée par une rigueur. On peut dire que, du point de vue de l'écriture des chansons, Bruand était quasi parnassien. C'est-à-dire, c'est toujours des vers de 4 à 8 pieds, des couplets, en général, de 4 vers, avec refrain. D'autre part, il avait une intelligence très profonde du rapport entre le texte et la musique. Les textes étaient servis par des musiques simples, faciles à mémoriser, qui se répétait donc au travers de la phrase du refrain. Et donc, en quittant le cabaret, chaque spectateur avait en mémoire une ou deux ou trois airs qui ensuite faisaient leur tour très rapidement dans les milieux artistes ou bourgeois qui fréquentaient le cabaret. Et peu à peu, à travers notamment les étudiants, ou des milieux où on chantait, où on pratiquait beaucoup la chanson, telles que les professions libérales qui pratiquaient les banquets. Certaines de ces chansons sont passées dans ce qu'on appelle le folklore.
France Musique, tour de chant, Martin Penet.
Quand elle était petite, le soir elle allait à Sainte-Marguerite ou Casse des Soleils. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard le Noir. À la Bastille, on aime bien Nelly Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien.
Qui ça ?
Nelly Potchien.
Où ça ?
À la Bastille. Elle a la peau douce, aux taches de son, à l'odeur de rousse qui donne un frisson. Et de sa prunelle au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. À la Bastille, on aime bien Nelly Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien.
Qui ça ?
Nelly Potchien.
Où ça ?
À la Bastille. Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, le génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène du bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. À la Bastille, on aime bien Nelly Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien.
Qui ça ?
Nelly Potchien.
Où ça ?
À la Bastille.
Souris de Montmartre, que nous venons d'entendre, a participé en 1955 avec Roger Rigal à un diptyque en 45 tours chez RCA consacré à l'œuvre de Bruand. Elle sera à nouveau présente en 1963 sur un 33 tours RCA de Francis Carco évoquant le Chat Noir et Bruand. La force du style du chansonnier réside également dans ses mélodies, simples en apparence, souvent proches, mais efficaces et très identifiables. Dans son étude sur Bruand au début des années 50, Carco s'est aussi intéressé à cet aspect.
Il n'y a pas que l'expression et que l'image qui, chez Bruand, portent à chaque trait. Il y a la musique dont il était l'auteur. Cette musique, alerte ou plaintive, traînante, cafardeuse, souvent gouailleuse, toujours évocatrice de l'humeur sombre ou de la joyeuseté de caractère de ses héros. Certains motifs reviennent fréquemment dans son œuvre. À Batignolles, à la Villette, à Montparnasse, par exemple, se chantent à peu près sur les mêmes airs. Cela ne leur enlève rien de leur vigueur de touche, ni de leur mordant d'expression.
À
Elle avait pu ses 18 ans, elle était plus jeune depuis longtemps, mais elle faisait encore la place à Montparnasse. En la voyant, on savait pas si c'était de la viande ou du gras qui ballottait sur sa surface à Montparnasse. Elle buvait pas trop mais assez, et quand elle vous soufflait dans le nez, on croyait renifler du pétrole à Batignolles. Ses appâts étaient pas ben gros, mais je me disais, quand on est d'eau, on peut nager avec une seule à Batignolles. A gagné pas beaucoup d'argent, mais j'étais pas ben exigeant. On vend de l'amour pour une balle à Batignolles. Il y a des nuits où ce que les sergots les ramassent comme des escargots, de la rue de Flandre à la Chopinette à la Villette. On le prenne grand ou petit, rouge ou brun, on peut pas en conserver un. Ils s'en vont tous à la requête, à la Villette. La dernière fois que je l'ai vu, il avait le torse à moitié nu et le cou pris dans la lunette à la requête.
Ce montage de trois chansons différentes de Bruant, écrites sur le même air, était chanté par Marc Augeret, qui a consacré de nombreux disques au répertoire historique et social de la chanson française. En l'occurrence, en 1978, il a sorti chez Vogue un coffret de 60 chansons et monologues d'Aristide Bruant. À Saint-Lazare, chanson écrite par Bruant en 1887, évoque l'atmosphère de la prison-hôpital pour femmes Saint-Lazare, située au cœur du 10e arrondissement, dans un bâtiment vétuste du XVIIe siècle et tenu par des religieuses. Cet établissement était en partie affecté à la garde des prostituées de rue encartées qui devaient régulièrement passer une visite médicale et, en cas de maladie vénérienne constatée, rester enfermées dans des conditions assez sordides pour se faire soigner. Au cours du XXe siècle, beaucoup de chanteuses ont mis à leur répertoire cette œuvre fondatrice du genre réaliste. Même Barbara, qui à ses débuts dans les années 50, à Bruxelles puis à Paris, chantait des chansons très variées, signées d'auteurs de différentes époques. Elle reviendra sur cette période formatrice en décembre 1969 sur Europe 1, en reprenant en direct des chansons anciennes.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Vrai, si t'aimes bien ta petite souris, réponds-moi vite. Je me suis fait chauffer l'autre soir et je te déclare que je me fais un sang qui est ben noir à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sans le sou, ça me fait de la pile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup ne boit pas de trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu flanques des beignes. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je vais terminer en t'embrassant, adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, moi je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa. Quand que j'étais petite et que j'allais communier à Sainte Marguerite.
Vingt ans après Barbara, Véronique Sanson reprendra également cette chanson dans un style plus personnel, puisqu'elle en fera un genre de blues.
Vous savez, je vais vous chanter une chanson qui n'est pas de moi, qui est un monsieur qui s'appelle Aristide Bruand, et qui était un type qui a vécu à la fin du siècle dernier, et qui a beaucoup écrit sur les quartiers de Paris, sur la Belle Époque. Mais la Belle Époque, c'était pas la Belle Époque pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui crevaient de faim, puis des gens qui crevaient pas de faim du tout. Alors, cette chanson, je l'adore parce que c'est à propos d'une prostituée. C'est une prostituée, vous savez, il y a une prison de femmes qui s'appelle Saint-Lazare. Et on enfermait les prostituées dedans. Et celle-là, elle écrit à son Mac, qui n'était pas un personnage reluisant, dirais-je. Et elle lui écrit la plus belle lettre d'amour du monde. Alors vous allez voir comme elle est rigolote. Enfin, rigolote, c'est pas vraiment le mot. Ça s'appelle Saint-Lazare.
C'était un extrait du récital de Véronique Sanson au Francofolie de La Rochelle en juillet 1989. Si Bruand fait œuvre de littérature, son répertoire ne constitue pas moins un témoignage irremplaçable, l'héritage culturel d'un Paris oublié dont il a voulu capter le langage et les modes de vie. De son vivant, il jouait déjà un rôle de passeur auprès du public aisé qui venait l'entendre dans son cabaret ou au café-concert sans presque rien connaître de la vie des marginaux. Bien des décennies plus tard, c'est par le truchement de ses enregistrements réalisés aux alentours de 1910 que Bruand va toucher de nouveaux auditeurs au point de susciter des vocations. Ainsi, le jeune Renaud Séchant, qui fera en 1979 à Bobino un spectacle de reprise de chansons réalistes intégrant une chanson de Bruand, rue Saint-Vincent, ainsi qu'un poème, Le Lézard.
On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien roupiller, je peux pas travailler, ça m'emmerde. J'en foutrai jamais une secousse, même pas dans la rousse, ni dans rien. Pendant que le soir, je fais ma frappe, ma sœur fait de la retape, et c'est bien. Elle a plus de daron, plus de daronne, elle a plus personne, elle a que moi. Au lieu de soutenir ses pères et mères, elle soutient son frère. Et ben quoi? Son jumeau, c'est mon camarade. Il vaut bien que je fade avec eux. Aussi, je l'aime, mon beau Fernès. Il est à l'adresse pour nous deux. Je m'occupe jamais du ménage, je suis libre et je nage au dehors. Et je vais sous les sapins, au but. Là, j'allonge mes flûtes et je m'endors. On prend les manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien roupiller. Je peux pas travailler, ça m'emmerde.
La chanson réaliste qui rôdait un peu chez moi, en disant que quand ma mère voulait écouter un disque de Bert Silva ou de Maurice Chevalier, elle le faisait en loose day, disant que mon père n'aimait pas du tout ce genre de chansons et de musique. Et c'était plus dans la famille de ma mère que j'avais l'occasion d'entendre ces chansons-là. Mais je l'ai un peu subi, enfin subi, pas au sens négatif du terme, mais j'ai un petit peu entendu jeune dans mon enfance. Et puis surtout, je l'ai découvert plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à la chanson, quoi.
Parce que dans tes chansons, actuellement, je sens non pas une influence, je sens une continuation de l'esprit de cette chanson-là. Est-ce que tu es d'accord?
Continuation, oui, sûrement. Oui. Mais influence aussi, c'est sûrement. À 16 ans, j'ai découvert Bruant. Bon, d'abord ses textes, ensuite j'ai essayé de me procurer les chansons de Bruant, chantées soit par lui sur des vieux 78 tours, crin-crin, soit chantées par d'autres. À 20 ans ou 22 ans, j'ai entendu Guichard, Daniel, qui, dans son premier album, qui chantait du Bruant, qui chantait les chansons de Francis Lemarque, des chansons de lui. Et bon, c'est un peu Bruant qui m'a amené à la chanson réaliste.
Renaud répondait à Noël Simsolo sur France Culture en 1984. Le passage de relais entre Bruant et Renaud est assez évident. Vers la fin des années 70, ce dernier va en effet transposer la description des marges des faubourgs chères à Bruant dans le cadre de la banlieue de Paris. Le faubourg est devenu la cité HLM et l'Apache s'est muée en loubard. Les premiers albums de Renaud vont mettre en scène ce personnage en blouson noir, bandana rouge et Santiago, comme ici en 1977 dans La chanson du loubard.
Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. Sérieux, sérieux. Je suis un loubard parmi tant d'autres. Je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. Moi, HLM, c'est pas Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Un soir, dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. Stanflé, stanflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche. Je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu. Oh bon Dieu, bon Dieu, oh mon Dieu.
Renaud a repris le flambeau de Bruant en livrant un témoignage sur le langage des banlieues de son époque, avec ses loubards, ses gonzesses et ses barlouches. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car 20 ans plus tard, c'est du côté des rappeurs que l'on peut trouver un prolongement aux chansons de Bruant. Les rappeurs emploient un langage parfois codé, un nouvel argot reflétant la diversité des origines des populations qu'ils évoquent. Leur description assez réaliste de certains quartiers durs de banlieue s'inscrit dans la droite ligne de ce que faisait Aristide Bruant un siècle plus tôt concernant les faubourgs de la capitale. En 1998, le groupe Suprême NTM a marqué le paysage du rap avec la sortie du single « Laisse pas traîner ton fils ».
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain, pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le, quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Pour conclure, dans un registre beaucoup plus léger, Aristide Bruant a aussi signé des chansons comiques, comme Marida, mise en musique par la suite par Gaston Gabaroche. Elle est ici chantée par Cora Vauquer, au cours d'une jam session poésie de Luc Bérimont, enregistrée à la salle de l'Alliance française en 1967.
À la mairie, la noce arrive, le marié saoul comme une griffe se met à chanter. Gué, gué, marions-nous, mettons-nous la corde au cou. Le maire, bonne gueule républicaine, dit oui, je comprends bien tout ça, mais ramenez-le la semaine prochaine, je peux pas le marier dans cet état-là. Oh monsieur, disait la mariée, qui paraissait très contrariée, nous sommes ensemble depuis 5 ans, nous avons déjà 6 enfants. Et la bonne gueule républicaine disait oui, je comprends bien tout ça, mais ramenez-le la semaine prochaine, je peux pas le marier dans cet état-là. Et gué, gué, marions-nous, mettons-nous la corde au cou. Jour après, la noce rapplique, le marié saoul comme une bourrique se met à chanter. Gué, gué, marions-nous, mettons-nous la corde au cou. Et la bonne gueule républicaine disait ah, alors là je comprends plus tout ça. Et il est plus saoul que l'autre semaine, je peux pas le marier dans cet état-là. Oh monsieur, disait la mariée, qui paraissait très contrariée, quand il est pas dans cet état-là, il dit qu'il se fout du marida. Qui veut rester concubinaire, qui veut pas se mettre la corde au cou. Bref, vous comprenez, monsieur le maire, il veut se marier quand il est saoul. Et gué, gué, marions-nous, mettons-nous la corde au cou. Gué, gué, marions-nous, mettons-nous la corde au cou.
L'exposition sur Aristide Bruant est présentée au musée de Montmartre jusqu'au 20 octobre. Vous trouverez les détails sur l'application Radio France et sur le site de France Musique, où vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette série. Tour de chant, une émission de Martin Penney, avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Éric Boisset à la technique, Noé Mignard à la réalisation. Merci à Pierre Villers, Romain Couturier et à Mylène Touchet pour les archives de l'INA.
France Musique.